bonjour à toutes, bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie, en route vers le plus beau dilemme qui soit. Car si le cœur est le lieu de l'amour, c'est aussi celui de l'honneur. Et si entre l'amour et l'honneur, il faut choisir, comment alors ne pas avoir le cœur brisé ? Bonjour Christian Biais.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur d'histoire et esthétique du théâtre à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez préfacé et proposé vos commentaires à une édition du Cid de Corneille au livre de poche. Vous êtes l'auteur d'une biographie d'un livre intitulé « Moi, Pierre Corneille, en découverte Gallimard ». Qu'est-ce que le théâtre, chevalu Gallimard, avec Christophe Trio. Bref, vous connaissez Corneille et le théâtre mieux que personne. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons explorer le Cid de Corneille. Alors, commençons par le début, le Cid Campeador, c'est le seigneur qui gagne les batailles, et avant d'être une comédie de Corneille, c'est une légende espagnole, hein. Rodrigue est un chevalier du XIe siècle qui est un emblème de l'histoire castillane.
En effet, non seulement c'est un emblème de l'histoire castillane, mais c'est le héros même, et il se trouve qu'en plus à Rouen, là où est Corneille, il y a beaucoup d'Espagnols, donc à partir de là, on connaît parfaitement la chose, et il n'est pas du tout impossible que Rodrigue soit le héros déjà, et que Corneille le connaisse déjà, y compris en espagnol. Et puis ensuite, il y a eu ce texte qui s'appelle « Las Moceladas del Cid » de 1618, de Guilaine de Castro, que Corneille connaît aussi absolument parfaitement, et à partir de là, lui-même va construire une tragicomédie avec ça.
C'est important, un tragicomédie.
Absolument, puisque l'idée c'est de savoir comment un jeune homme est percé au fond du cœur d'une atteinte imprévue et qui justement risque d'être mortel, et à partir de là, comment il va réussir quand même à se marier avec Chimène, qu'il l'aime malgré la mort du père. Donc c'est tout cet ensemble-là qui est tout à fait intéressant, avec le jeu de la transgression ou non du genre qui n'est pas tout à fait fixé, qui est celui de la tragicomédie.
Qui évolue d'ailleurs, me semble-t-il, parce qu'il y a une version en 1637 qui s'appelle tragicomédie, et les versions ultérieures vont finalement tendre vers la tragédie.
C'est ça, au fur et à mesure que le XVIIe siècle devient un peu plus normatif, Corneille lui-même va retoucher sa pièce et va un peu effacer un des personnages que j'aime beaucoup, qui est le personnage de l'infante, pour justement avoir un peu plus d'éléments qui touchent à la bienséance. Mais néanmoins, cette pièce reste au fond, malgré le nom de tragédie qui apparaît justement un peu plus tard, une vraie tragicomédie. Et ça, on le verra au fur et à mesure, puisque on va dire que les deux objets essentiels dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un côté le cœur et de l'autre côté l'épée.
On commence avec le cœur.
On peut commencer.
Rodrigue, as-tu du cœur ?
Tout autre que mon père éprouverait sur l'air.
Agréable colère, digne ressentiment à ma douleur bien doux. Je reconnais mon sang à ce noble courroux. Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. Viens, mon fils, viens, mon sang. Viens réparer ma honte, viens me venger.
De quoi ? D'un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux, il porte un coup mortel. Il en soufflait. L'insolent en eut perdu la vie. Mais mon âge a trompé ma généreuse envie. Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir, je le remets au tien pour venger et punir. Va contre un arrogant et prouve ton courage. Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage. Meurs ou tue. Ne sors plus pour ne te point flatter. Je te donne à combattre un homme à redouter. Je l'ai vu tout couvert de sang et de poussière. Porter partout l'effroi dans une armée entière. J'ai vu par sa valeur 100 escadrons rompus. Mais pour t'en dire encore quelque chose de plus que brave soldat, plus que grand capitaine, c'est...
De grâce, achevez !
Le père de Chimène. Ne réplique point, je connais ton amour. Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour. Plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. Enfin, tu sais l'affront et tu tiens la vengeance. Je ne te dis plus rien. Venge-moi! Venge-toi! Montre-toi digne fils d'un père tel que moi. Accablé des malheurs où le destin m'arrange, je vais les déplorer. Va, cours. Vole! Une vengeance.
De quoi Roderick doit-il venger son père, Christian Bier?
D'un affront, d'un terrible affront. Son père a perdu son épée. Même si Corneille n'a pas lu Freud, on sait ce que c'est que de perdre son épée, surtout à cet âge-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Don Diego a été véritablement désarmé par Don Gomez, le père de Chimène, il s'appelle le comte dans la version de 1636-37. Donc, tout ça commence par une histoire d'épée. Au début, tout allait bien, le jeune couple Chimène et Rodrigue pouvaient se marier, les familles étaient d'accord, et puis il y a eu cette discussion qui s'est largement envenimée, puisque l'idée c'était de savoir qui allait devenir le conseiller et l'éducateur du jeune prince, entre Don Diego le plus vieux et Don Gomez le plus jeune.
Don Diego le père de Rodrigue, Don Gomez le père de Chimène.
Absolument. D'où ce grand moment par lequel démarre véritablement la tragicomédie et la dramaturgie du Cid, c'est ce moment où les deux s'entretuent d'une certaine manière, puisqu'il y a un premier duel qui peut parfaitement être sur scène dès 1637, et là, Don Diego tire son épée après avoir reçu un soufflet, et son épée tombe. Pire que ça, une fois que son épée est tombée, une fois qu'il a été désarmé par le comte ne ramasse pas son épée pour la lui donner. Autrement dit, l'épée est à terre et il va falloir en faire quelque chose. Et c'est tout le trajet de cette épée qui va, d'une certaine manière, structurer la pièce. Puisque cette épée va être quand même ramassée finalement par le père, elle va être apportée au fils, c'est la scène qu'on vient de voir, pour que le fils en fasse quelque chose et qu'il aille en effet venger le père, mais en vengeant le père, évidemment, il multiplie par 10, par 100, par 1000 le cœur gloire, le cœur glorieux et aristocratique qu'il a, mais il est en état de perdre l'autre cœur, c'est-à-dire le cœur de Chimène. Et donc l'épée va être véritablement tranchante, et toute la question c'est de savoir si l'épée va trancher le cœur des deux enfants, ou si, quand même, les choses vont rester en l'état. Autrement dit, si le cœur de Chimène va continuer à battre, malgré l'épée, pour Rodrigue.
L'épée, donc, à double tranchant. Pourquoi dites-vous que ce duel pouvait avoir lieu sur scène, même en 1637?
Oui, alors c'est toute l'histoire, vous savez, où on dit que Corneille a un peu exagéré, puisque l'édit de Richelieu contre les duels était là enfreint d'une certaine manière sur scène, puisqu'on pouvait représenter un duel aristocratique. Faut pas oublier non plus que à cette époque les duels étaient assez fréquents, que Richelieu cherchait à les interdire, tout simplement parce que ça faisait des saignées absolument énormes dans le jeune personnel aristocratique de cette époque. Bon, on reste un petit peu dans l'anecdote, mais enfin, il y a quand même cette question-là, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans cette pièce, vous voyez, c'est que elle passe son temps à attirer l'attention des spectateurs à l'époque où le théâtre n'était pas particulièrement attentif, où les gens étaient debout, etc. Bon. Donc, à chaque fois, on a des coups de force, et à chaque fois, on a un minimum de transgression et un maximum d'effet, de manière à ce que le public se taise, fasse autre chose que de discuter les uns avec les autres et regarde ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire quand même un spectacle tout à fait poignant, tout à fait fort, et avec des duels, avec justement de l'action.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas lire cette pièce sans s'imaginer la mise en scène, et notamment la présence de l'épée qui n'est pas forcément signalée dans ce moment-là, et que le texte, qui est très fort en lui-même, finalement, ne se suffit pas sur scène. Il faut des mises en scène pour attirer l'attention du spectateur.
Ah oui, alors, dès l'époque même, on y va pour voir. Alors, on va d'abord au théâtre pour rencontrer les autres gens qui vont au théâtre, etc. Bon, très bien. Mais en même temps, ce spectacle-là, malgré tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était plutôt des principes rhétoriques, il y avait de l'action, mais qu'on était quand même avec des grandes tirades et plutôt quelque chose qui tenait du poème que de la mise en scène cinématographique contemporaine. Non, on Néanmoins, quelque chose se passait là. Alors, juste une toute petite chose par rapport à cette pièce, qui est suffisamment importante pour qu'on s'y arrête. Non seulement elle a changé un certain nombre d'idées par rapport à la manière dont on peut représenter une action, mais aussi, cette pièce a eu tellement de succès qu'on a inventé un truc à l'époque qui était de mettre les spectateurs sur la scène elle-même. En fait, en 1636, lorsque ça a été joué, ça a eu tellement de succès que Mondory, au Théâtre du Marais, commence à refuser du monde. Or, les directeurs de théâtre, quand il y a du succès, détestent refuser du monde. Donc on se dit, où est-ce qu'on va mettre les gens qui cherchent à entrer? Et là, on commence à placer des chaises sur le plateau. Et depuis 1637 jusqu'en 1759, il va y avoir entre 40 et 100 chaises, puis des bancs, donc entre 40 et 100 personnes sur le plateau, non seulement au Théâtre du Marais, mais dans tous les théâtres de France, et en tout cas dans tous les théâtres parisiens, les trois théâtres parisiens. Et on va avoir l'habitude de voir des spectateurs en train de voir une pièce, ça pendant plus d'un siècle. Ce qui fait qu'il faut s'imaginer que toutes les grandes pièces de théâtre qu'on imagine, faites dans le grand silence, par exemple de Bérénice, était vu différemment à l'époque, puisqu'on voyait des spectateurs voir, et que ces gens-là, d'ailleurs, payaient très très cher, puisqu'ils payaient le prix des premières loges.
Alors, les extraits de la pièce que nous entendons aujourd'hui, ce sont des extraits de la mise en scène par Jean Villard, qui était joué à Avignon le 1er juillet 1951. C'est Gérard Philippe, vous l'aurez peut-être reconnu dans le rôle de Rodrigue. On a Sylvia Monfort qui interprète Chimène, Jean Villard qui fait lui-même le roi. Si on reprend l'extrait qu'on a entendu, Rodrigue, as-tu du cœur? On va s'arrêter sur ce thème de cœur, puisque c'est avec et par le cœur que nous lisons le Cid aujourd'hui. On va faire un tout petit détour par le dictionnaire universel d'Antoine Furtière, qui propose, en 1690, certaines définitions du cœur qui sont en vigueur à l'époque, puisqu'on pourra mieux comprendre ensuite les références au cœur dans le texte même du Cid. Écoutez.
Cœur. Partie noble de l'animal, qui est le principal organe de la faculté vitale, qui est le principe et le siège de la chaleur naturelle et de l'humidité radicale qui le fait vivre, languir ou mourir. Et le premier auteur du pouls et de la respiration par le moyen des artères dont il est la source. Cœur signifie quelquefois vigueur, force, courage, intrépidité. Cœur se dit figurément en choses spirituelles et morales et signifie l'âme et ses principales fonctions. Parce que quelques médecins ont cru que les principales parties de notre esprit résidaient au cœur, comme l'entendement, la volonté, la mémoire. Cœur se dit aussi des passions de l'âme. Il ne faut point garder son cœur contre ses amis, c'est-à-dire sa colère, son ressentiment. Cœur se dit particulièrement de l'affection, de l'amitié, de l'amour, de la tendresse. Le prophète David était le cœur de Dieu. Les rois doivent s'efforcer d'avoir toujours de l'affection, le cœur de leur peuple. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Un mari et une femme ne doivent être qu'un cœur, qu'une âme. Se doivent aimer du fond du cœur, de tout leur cœur, de cœur et d'affection.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du cœur cette semaine et aujourd'hui du cœur dans le Cid de Corneille. Rodrigue, as-tu du cœur? On a entendu cette phrase, Christian Bier. Et là, dans le dictionnaire universel d'Antoine Furtière, on se rend compte que l'amour ne vient qu'en cinquième définition du cœur et que celle peut-être qui est utilisée dans cette pièce à ce moment-là par le père de Rodrigue, Rodrigue, as-tu du cœur? C'est plutôt la deuxième définition. Non, ça signifie quelquefois vigueur, force, courage, intrépidité.
C'est ça, le cœur aristocratique. Une sorte de métaphore du courage, de la force et de la gloire, en effet. Mais ce qui est intéressant au XVIIe siècle, avant en fait que la question de la psychologie arrive, hein, vous en avez parlé hier, le XIXe siècle.
Avec Alfred de Musset, oui.
On a ce mot cœur, cette notion, c'est un vrai champ de bataille interprétatif à peu près à tous les niveaux. Dans un premier temps, c'est en effet un phénomène physique, un élément physique, c'est le moteur à proprement parler, et c'est le lieu de la chaleur, le lieu dynamique au fond, c'est-à-dire le lieu du battement. D'autant qu'on vient de trouver au début du XVIIe siècle la manière dont le sang circule avec Harvey. Donc on passe par le cœur, mais on garde un certain nombre d'éléments pour parler de ce cœur, à savoir que non seulement c'est par où le sang passe, mais c'est surtout le lieu qui, parce qu'il est battement, parce qu'il est dynamique, et parce qu'il est chaleur, réchauffe l'humeur cordiale. Donc ça, c'est le premier temps. Et ça, c'est très important de voir que le cœur, c'est d'abord ce phénomène physique-là, ce lieu dynamique-là, et que Corneille joue aussi là-dessus, c'est-à-dire joue sur l'idée qu'il y a une dynamique et qu'il y a un battement. D'une certaine manière, il représente des battements de cœur face à des gens qui sont là pour que leur cœur batte en regardant la pièce. Donc il y a quelque chose de cet ordre dans la représentation. Alors deuxièmement, il s'agit de montrer quoi ? Il s'agit de montrer le cœur d'un jeune homme qui est déchiré entre les deux éléments du cœur qu'on a entendu définis par Furtière. D'un côté, un cœur en effet métaphore du courage, de la force, d'une certaine manière le cœur aristocratique, c'est-à-dire le cœur de son père. Et de l'autre côté, le cœur lieu de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la passion, mais attention, ce n'est pas la passion racinienne, ce n'est pas la passion dévorante, c'est la passion qui permet d'arriver au mariage, si vous voulez. Bon, autrement dit, et c'est en même temps un cœur de jeune homme, et donc il y a ces deux cœurs, si je puis dire, qui sont déchirés par cette épée dont on parlait tout à l'heure, entre d'un côté le cœur valeur aristocratique et glorieuse, et de l'autre côté le cœur de l'amour, le cœur affection. Et peut-être le troisième cœur dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent et qui est un peu cité par Furtière à plusieurs endroits, ce qui est le cœur du roi, si je puis dire, ouais. Puisque le roi essaie d'être le cœur de l'État, mais il n'y arrive pas encore tout à fait. Donc ici, Don Fernand, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a besoin d'une certaine manière d'être celui qui est le cœur de la cité et de l'État.
Dites-nous qui est Don Fernand, du coup.
Don Fernand, qui est le roi dans cette pièce-là et qui va devoir trancher à la fin. C'est le cas de le dire, et qui est celui qui va dire à la fin à Rodrigue, je te rends ton épée à condition que ton cœur batte pour moi qui suis le cœur de la cité. Voilà. Et quant à Chimène, elle n'aura qu'à plier, mais ça, c'est le côté gender de Corneille dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc vous voyez, au fond, ce qui est intéressant, c'est que l'idée même de ce cœur champ de bataille interprétatif et à tout niveau, est encore extraordinairement corporel, mais aussi il est déjà passé en métaphore aristocratique, en métaphore de l'affection, mais aussi en métaphore de la cité. C'est ces trois éléments, et on ne parle pas, puisqu'on n'en parle pas ici chez Corneille, mais d'un troisième ou d'un quatrième système interprétatif, qui est évidemment le cœur, lieu de la volonté, de l'âme, le cœur pointe de l'âme, mais ça, c'est plutôt pour les mystiques, et Corneille, évidemment, n'est pas véritablement un mystique, même s'il a traduit l'imitation de Jésus-Christ pour se faire un peu d'argent.
Les histoires de cœur au XVIIe siècle sont toujours des histoires d'épée. On n'est pas au bout de cette mise en abîme de l'interprétation du cœur, puisque vous allez voir, le cœur revient. C'est ainsi que Don Rodrigue reprend la parole, après avoir eu donc son père qui lui a expliqué qu'il fallait à tout prix le venger. « Meurs ou tue », dit-il. En gros, tu dois me venger, donc soit tu meurs du duel que tu vas provoquer, soit au contraire, c'est toi qui vas tuer. Mais alors, le problème, il faut le dire, question bien, c'est que s'il tue le père de Chimène, il ne peut plus épouser Chimène. D'où le dilemme, absolument, comme tout dilemme aporétique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas trouver de solution. Et voici, vous allez entendre comment il commence ensuite, c'est ce qu'on appelle les stances de Rodrigue, il se retrouve seul sur scène. Et il va prendre une image qui, pour définir son état, qui est en lien direct avec le sujet de notre émission. Mais avant cela, vous allez entendre comment Jean Negroni, le comédien et metteur en scène Jean Negroni, parlait du jeu de Gérard Philippe. Jean Negroni sur Gérard Philippe, Gérard Philippe qui interprète Rodrigue, vous allez voir, du début à la fin, on est en plein cœur.
Et ce qui était étonnant dans la voix de Gérard, c'était qu'elle était constamment au bord des larmes, quelque part. Et c'est qu'en même temps, elle était extraordinairement solide et vigoureuse. Elle charriait du courage. Ce qui me frappe, moi, dans le Cid, quand il joue le Cid, c'est que c'est un acteur qui apporte le cœur en scène. Gérard avait du cœur au sens du 17e. Et ce cœur, ça passait la rampe d'une façon fantastique.
Percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire perdue, l'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fais qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène?
Il faut venger un père et perdre une maîtresse, l'un m'anime le cœur et l'autre retient mon bras. Tout est dit en deux vers, Christian Bière.
Oui, oui, oui. L'un m'anime le cœur et c'est le cœur dont on parlait tout à l'heure. Et d'autre part, le cœur de Chimène retient mon bras. Et si on reprend l'histoire qu'on était en train de se raconter tout à l'heure, Rodrigue donc vient de récupérer l'épée sans vie du vieux père, et le vieux père vient de lui léguer cette grande épée qui a été l'honneur de la maison. Bon, à partir de là, la question c'est qu'il faut qu'il en fasse quelque chose, et Rodrigue a du cœur courage, il a en même temps le cœur de Chimène, et il était en état d'avoir aussi la main de Chimène. Mais manque de chance, puisqu'il est percé d'une atteinte imprévue. Voilà. Eh bien, il reçoit l'épée. Pour redonner vie à cette épée, il faut qu'il tue. Donc, s'il a l'épée, il n'aura plus la main. Et le grand problème, c'est il n'aura plus la main, mais gardera-t-il le cœur de Chimène? Donc, on est dans
ce jeu. Le cœur à l'épée, à la main, il voilà. Y a un cercle qui s'établit.
Et voilà comment on compose un poème. En tout cas, voilà comment on compose des stances, et en même temps, voilà comment on compose une dramaturgie, parce que tout ça a un sens, tout ça a un système dynamique. Et les stances, c'est précisément de dire qu'il est percé jusqu'au fond du cœur, et là, on a le phénomène physique. D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, d'une atteinte imprévue, c'est le principe de la tragicomédie. Mais simplement, on va un petit peu plus loin, parce que la mort est pas absolument prévue à ce point-là dans la tragicomédie, surtout la mort du père de celle que on voudrait épouser.
Ce qui choque les contemporains de Corneille, pour le coup, là, il transgresse le code.
Là, on a une transgression, on va dire, de type anthropologique classique, mais qui, théoriquement, choque les bienséances, théoriquement encore, parce que Corneille, quand il était jeune à Rouen, a vu bien pire, puisque il a vu toutes les grandes tragédies sanglantes de l'époque, et il n'est pas à sa près. Simplement, l'histoire littéraire française a fait en sorte que faudrait croire que la France s'est toujours bien tenue et qu'elle n'a jamais montré de choses sanglantes et terribles. Enfin, c'est
Il y a aussi le fait de que reste-t-il de la comédie quand il y a un mort? C'est-à-dire qu'on est plus du côté de la tragédie que de la comédie, là.
Et voilà. Et on est vraiment entre les deux. On est vraiment dans cette tragicomédie-là. Donc ces stances sont là pour mettre le cœur en débat et pour qu'il y ait à la fin un choix qui est justement de choisir le cœur épais au risque de perdre le cœur affection. Et la scène suivante, ça sera justement de savoir, premièrement, comment le cœur épais va triompher du cœur trop échauffé du père de Chimène, et ça sera d'une certaine manière l'histoire du deuxième duel entre Rodrigue et le comte. Et on sait que le comte, lui, le problème du comte, c'est que c'est un aristocrate dont le cœur est trop chaud. Et à partir de là, ce cœur échauffé illégitime d'une certaine manière, parce qu'on peut parfaitement admirer le cœur courage, le cœur gloire, et Corneille va jouer là-dessus jusqu'à la fin d'une certaine manière. Mais lorsque le cœur courage et le cœur gloire est trop échauffé, alors il devient dangereux, alors il est problématique, alors il peut pour un roi être facteur de tyrannie, ou alors il peut pour un aristocrate être facteur de rébellion. Donc à partir de là, Don Gomez est considéré comme trop chaud et en même temps illégitime, et il va falloir que Rodrigue, évidemment, le tue, c'est-à-dire s'en débarrasse, et l'épée rendue à la vie va donner la mort. Rodrigue, du coup, n'a plus la main de Chimène, et la grande question, c'est de savoir s'il va aussi perdre le cœur de Chimène, et pour le savoir, il va foncer chez elle, avec l'épée toute sanglante du père, et évidemment, il va enfin s'apercevoir que, bien qu'ayant tué, il garde le cœur.
Eh bien, sans vous donner la peine de poursuivre, assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre.
Où sommes-nous et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison, Rodrigue devant moi.
N'épargnez point mon sang, goûtez sans résistance la douceur de ma perte et de votre vengeance.
Hélas.
Écoute-moi.
Ma mère.
Un moment.
Ah, laisse-moi mourir.
Quatre mots seulement. Après, ne me réponds qu'avec cette épée.
Quoi? Du sang de mon père encore tout trempé.
Ma Chimène.
Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux.
Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, pour croître ta colère et pour hâter ma peine.
L'état de mon sang.
Plonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien.
Ah, quelle cruauté! Qui tout en un jour tue le père par le fer, la fille par la vue. Ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir. Tu veux que je t'écoute et tu me fais mourir.
Quelle histoire quand même, parce que, et là, l'interprétation de Gérard Philippe et de Sylvia Monfort le donne vraiment à entendre, on ne doute pas un instant que Chimène et Rodrigue soient fous amoureux l'un de l'autre. Et il faut vraiment un obstacle tel que la mort du père de Chimène par Rodrigue, tué par Rodrigue, pour que l'amour soit peut-être mis en péril, mais il n'en est rien et on l'entend ici, on sent bien qu'il s'aime, et pourtant, il lui montre une épée ensanglantée du sang de son père. Ce qu'il reste de son cœur, c'est les taches de sang de son propre père. Et comme vous le dites, eh bien même ça ne va pas mettre, va pas compromettre l'amour qu'elle ressent pour Rodrigue.
Tout à fait. Alors ça c'est le coup de force à nouveau de Corneille. Alors là franchement, par rapport aux spectateurs qui n'ont pas l'habitude de se taire, ça vaut le coup vraiment de se taire pour regarder, quoi. C'est-à-dire que on voit quoi? Parce que c'est quand même des histoires de jeunes gens. Donc ce jeune homme, ce jeune aristocrate qui vient de tuer le père de la fille qui vient voir, il se réfugie chez sa maîtresse. Et là, la première chose qu'elle voit et qu'il lui montre, c'est le sang de son père. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est particulièrement fort et particulièrement violent et qui est destiné d'une certaine manière à faire scandale et qui fait scandale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, comment dirais-je, de l'ordre du buzz qui peut se mettre en place à ce moment-là, puisque forcément, si vous voulez, c'est une image. Plus qu'une question psychologique, plus qu'une question d'analyse amoureuse, c'est l'image de cette épée sanglante qui est sur scène et qui est mise en place. Alors qu'en général, on n'utilise pas tant que ça les objets et les éléments scéniques pour faire des effets au XVIIe siècle sur les planches. Donc, vous voyez comment ici on a cette image, cette histoire toujours du cœur et de l'épée et de cette épée sanglante et meurtrière de ce dont Diègue vengé, en effet, mais la question, c'est à partir de là, si ce sang qu'on nous montre est à même de tarir, si je puis dire, l'émotion de Chimène. Il n'en est rien. Va, je ne te hais point. Donc,
la voix d'une petite ellipse. Hein,
oui, juste après. Vite, mais, ouais.
Mais juste quand même, précisons que lorsque Rodrigue rejoint Chimène, l'épée qui a tué son père en main, c'est pour lui demander de lui tuer. De le tuer à son tour. Il dit « Je ne peux pas vivre. Du coup, notre amour est désormais impossible puisque j'ai tué votre père, ton père. Donc retourne cette épée contre moi afin que je meure et que je sauve mon honneur et le tien. »
Deuxième coup de force. puisque il lui met, il la met en état de le tuer. Évidemment, elle le fera pas. Donc, deuxième coup de force qui va, ne serait-ce que par le geste, avant même qu'elle parle, révéler ce qu'elle pense en effet au fond et ce qu'elle, son émotion profonde à elle, qui est une émotion qu'elle ne pourra pas résoudre, ceci jusqu'au bout de la pièce, puisqu'elle sera prise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce dilemme, mais qui n'est pas seulement un dilemme, qui est vraiment une déchirure, à savoir d'un côté l'incroyable violence qu'elle a à voir celui qu'elle aime, en état d'être aimée bien évidemment, et en même temps d'avoir tué son propre père. Et ça, elle s'en sortira jamais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle ne pourra pas choisir. Il faudra, d'une certaine manière, que ce soit le roi, d'une certaine manière les hommes, qui choisissent à sa place.
Reste que le personnage de Chimène, vous parliez du côté gender de Corneille, hein, le personnage de Chimène, et puis il y a aussi celui de l'enfant dont on n'a pas assez parlé, et qui a d'ailleurs, c'est ce que vous me disiez avant que l'émission commence, le monopole du cœur en quelque sorte, parce que c'est elle qui prononce le plus le mot cœur, hein, l'enfant qui est amoureuse de Rodrigue en fait.
En effet, alors le j'ai regardé un petit peu les occurrences, c'est l'infante qui, dans les 46 fois où le mot cœur est écrit dans cette pièce, c'est celle qui, dans le discours, comporte le plus souvent le mot cœur, suivi par Chimène, suivi par Rodrigue. Et ça, ça, c'est intéressant. Autrement dit, c'est elle qui, véritablement, porte la question du cœur, si je puis dire, numéro 2. C'est-à-dire le cœur, lieu de l'amour, le cœur, lieu de l'affection, avec comme problème le cœur numéro 1, puisque, comme elle est la fille du roi...
Elle ne peut pas épouser Rodrigue, qui n'a pas du tout le statut correspondant.
Sauf si il devient l'équivalent d'un roi. Et ça, c'est la suite, c'est-à-dire le moment où Rodrigue va surpasser ses propres valeurs pour prendre en charge les valeurs de l'État alors qu'il n'a pas été mandé. Et l'espoir, d'une certaine manière, de l'infante, c'est de voir Rodrigue grandi de telle manière par rapport à l'État qu'elle serait en état, elle-même, de pouvoir l'épouser. Donc on a ce jeu-là, mais comme c'est un... Comment dirais-je, c'est un personnage typique, c'est-à-dire l'amante secrète et en même temps déçue et en même temps extraordinairement morale. Elle va évidemment s'apercevoir que puisque Chimène aime encore Rodrigue, elle va donc laisser la place et elle va être l'amante sacrifiée.
Alors l'obstination dans cet amour a quelque chose d'assez insolent. Corneille a été critiqué hein, par cette passion, pour cette passion amoureuse de Chimène qui l'a conduit à quasiment à pardonner à Rodrigue, et en tout cas donne lieu à des vers sublimes, interprétés donc par Chimène elle-même, qui expliquent à Rodrigue qu'elle ne peut pas le tuer, qu'elle ne peut pas renoncer à son amour. Le fait que Corneille donne la parole ainsi à Chimène et lui laisse exprimer les vers qui vont suivre, quelque chose d'assez audacieux qui a pu choquer en son temps et qui font de cette pièce, s'il fallait encore une bonne raison pour le prouver, non seulement une pièce qui a une narration assez incroyable, qui a des vers assez étonnants, mais en plus donne à ce personnage féminin cette lettre de noblesse absolue. Écoutez.
Ah, Rodrigue, il est vrai, quoique ton ennemi, je ne te puis blâmer d'avoir fui l'infamie. Et de quelque façon qu'éclatent mes douleurs, je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs. Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage, demandait à l'ardeur d'un généreux courage. Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien. Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien. Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire. Elle a vengé ton père et soutenu ta gloire. Même soin me regarde. Et j'ai, pour m'affliger, ma gloire à soutenir et mon père à venger. Hélas, ton intérêt ici me désespère. Si quelque autre malheur m'avait ravi mon père, mon âme aurait trouvé dans le bien de te voir l'unique allègement qu'elle eût pu recevoir. Et contre ma douleur j'aurais senti des charmes quand une main si chère eût essuyé mes larmes. Mais il me faut te perdre après l'avoir perdu. Et pour mieux tourmenter mon esprit est perdu, avec tant de rigueur mon astre me domine qu'il me faut travailler moi-même à ta ruine. car enfin n'attends pas de mon affection de lâches sentiments pour ta punition. De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne, ma générosité doit répondre à la tienne. Tu t'es, en m'offensant, montré digne de moi, je me dois, par ta mort, montré digne de toi.
Et ainsi la pièce peut continuer, Christian Biet. Tu t'es, en m'offensant, montré digne de moi, je me dois, par ta mort, montrer digne de toi. Il s'agit de rester digne, envers et contre tout.
Alors, c'est très important. On avait commencé cette émission en parlant du chœur comme champ de bataille interprétatif à tout niveau. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est un des problèmes majeurs de Corneille dès les comédies. C'est d'explorer. Explorer les différentes manières dont on peut parler du chœur, aussi bien en termes politiques et en termes, on va dire, aristocratiques, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi d'essayer de faire une sorte de cartographie du chœur. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que le XVIIe siècle, c'est vraiment un siècle où on passe son temps à essayer de se connaître soi-même, hein, et à faire la cartographie de soi-même, avant l'invention de la psychologie. C'est d'abord une sorte de cartographie, une manière... On connaît la carte de Tendre de Mademoiselle de Scudéry, mais plus que ça encore, c'est d'essayer de découvrir des territoires à l'intérieur de soi et de les exprimer philosophiquement d'un côté, poétiquement de l'autre, et ici c'est poétiquement et dramatiquement, pour essayer de voir comment il y a différents continents, etc. Et je voudrais juste citer un passage d'un texte que je trouve extrêmement intéressant d'un moraliste qui s'appelle François Lamy, qui essaie de faire une science du cœur dans un texte qui s'appelle de la connaissance de soi-même, et il parle justement de cette cartographie. Et il dit « Le cœur est d'une très vaste étendue. Il y a tant de terres et de mers à découvrir, dans ces terres, tant de chemins détournés, tant de recoins, tant de faux fuyants, tant de labyrinthes embarrassés et embarrassants, dans ces mers, tant d'orages et de tempêtes, tant d'écueils et tant d'abîmes inconnus, non seulement aux étrangers, mais même aux naturels et aux habitants du pays qu'il y aurait de la témérité d'entreprendre d'en faire une carte exacte. » Autrement dit, on passe son temps à essayer de faire une carte exacte du cœur et on n'y arrivera jamais. Et c'est exactement ce que vous venez d'entendre avec Chimène. Elle explore son propre cœur en essayant d'en faire la carte. De la même manière, on l'a entendu dans les stances, on a la même chose. Sauf que, une fois qu'on a essayé de faire la carte, alors il faut passer à l'action. Et c'est véritablement ça le problème de la tragicomédie. C'est que d'un côté, on a poétiquement une carte du cœur et... dramaturgiquement, la nécessité d'une action. Donc, on revient à cette histoire. Alors qu'il a tué le père de Chimène, comment peut-il, alors qu'il garde son cœur, se sauver lui-même et en arriver au bout du bout, puisque c'est une tragicomédie, c'est-à-dire au mariage. Et là, l'instrument, c'est l'instrument politique, c'est-à-dire prendre en charge l'État, alors que le roi n'a rien demandé parce qu'il est encore trop faible et pas suffisamment souverain, si je puis dire. Alors, le père de Don Diego intervient, et toujours en lui disant, puisque je t'ai donné mon épée, il faut que mon épée serve à quelque chose. Or, mon épée aristocratique, elle sert à lever des troupes pour attaquer les ennemis. Et les ennemis, en l'occurrence, c'est les morts. Et ce que dit Don Diego, c'est, si tu arrives à, en effet, alors que le roi te l'a pas commandé, à faire une grande victoire, alors à ce moment-là, tu auras la force sur le roi. Et puisque tu auras la force sur le roi sera bien obligé de te pardonner et tu pourras entrer, si je puis dire, en négociation et c'est ce qui se passe.
Mais alors, du coup, il sera aussi un candidat légitime au mariage avec l'infante.
Vous avez raison. Et c'est exactement le problème. Et donc, ça permet de relancer la deuxième intrigue qu'on a reprochée à Corneille, qui est l'intrigue de l'infante, puisque l'infante, voyant justement que Rodrigue a vaincu les morts sans avoir été mandé, mais... comme elle voit aussi qu'il a pris d'une certaine manière le pas sur le roi, elle peut espérer, en effet, épouser quelque chose qui est l'équivalent d'un roi.
Mais, et c'est peut-être là les limites du féminisme de Corneille, en tout cas à la fin de la pièce, on voit que ce n'est finalement ni l'infante ni Chimène qui ont vraiment leur mot à dire, puisque on va entendre la toute fin de la pièce, donc la scène 7 de l'acte 5, c'est entre les hommes, dont Fernand, dont Diego, dont Arias, dont Rodrigue, dont Alonso, dont Sanche, que va se jouer le sort, finalement, de Chimène. Écoutez d'abord Chimène, qui parle de Rodrigue, et enfin, Don Fernand et Don Rodrigue. Et puis, mot final, Don Fernand lui-même, qui vont prononcer la résolution. Ce n'est pas Chimène qui décide, ce sont les hommes.
Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr. Et quand un roi commande, on lui doit obéir. Mais à quoi que déjà vous m'ayez condamné, pourrez-vous à vos yeux souffrir cette Hyménée ? Et quand de mon devoir vous voulez cet effort, toute votre justice en est-elle d'accord ? Si Rodrigue a l'état de bien si nécessaire de ce qu'il fait pour vous, dois-je être le salaire et me livrer moi-même au reproche éternel de voir tremper mes mains dans le sang paternel?
Le temps assez souvent a rendu légitime ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime. Rodrigue t'a gagné et tu dois être à lui. Mais quoique sa valeur t'ait conquise aujourd'hui, il faudrait que je fusse ennemi de ta gloire pour lui donner sitôt le prix de sa victoire. Cet hymen différé n'auront point une loi qui, sans marquer de temps, lui destine ta foi. Prends un an, si tu veux, pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre mes armes. Après avoir vaincu les morts sur nos bords, renversé leurs desseins, repoussé leurs efforts, va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre, commander mon armée et ravager leur terre. À ce nom seul de Cid, ils trembleront d'effroi. Ils t'en aimaient, Seigneur, et te voudront pour roi. Mais parmi ces hauts faits, sois-lui toujours fidèle. Reviens-en, s'il se peut, encore plus digne d'elle, et par tes grands exploits, fais-toi si bien prisé qu'il lui soit glorieux à l'heure de t'épouser.
Pour posséder Chimène, et pour votre service, que peut-on m'ordonner que mon bras l'accomplisse ? Quoiqu'absent de ses yeux, il me faille endurer, sire. Se mettre au deuil de pouvoir espérer.
Espère en ton courage, espère en ma promesse. Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi.
Et c'est le dernier mot de la pièce, on entend le public d'Avignon hein, qui applaudit la fin de cette pièce. C'était le 1er juillet 1951, la mise en scène par Jean Villard. Vous avez reconnu sans doute Gérard Philippe dans le rôle de Rondrigue. Voilà, le dernier mot de la pièce, c'est roi, c'est lui qui décide, et c'est lui finalement qui va réussir à apporter une résolution à ce conflit qui paraissait absolument sans solution, à savoir comment faire en sorte que Chimène puisse épouser Rodrigue alors que Rodrigue a tué son propre père. Eh bien, c'est possible. Non seulement l'honneur va le permettre, mais le roi a décidé qu'il en était ainsi. C'est pratique le théâtre parfois, Christian Bier, pour rendre les choses possibles.
Oui, oui. Et je me rappelle une mise en scène que j'ai beaucoup aimée de Sartre, où on voyait les hommes en train de jouer au billard, et l'atmosphère, c'était une atmosphère de genre Sissi impératrice, etc. Et on voyait donc... et à chaque fois, Chimène arrivait en disant, bon, alors... il faut à nouveau poursuivre Rodrigue, alors en justice, puis après faire le duel avec Don Sanche, dont on n'a pas parlé, mais qui est un duel archaïque, etc. Et à chaque fois, on voyait le roi en train de soupirer, on dit, oh la revoilà. D'une certaine manière...
Ben, elle a besoin de mettre Rodrigue à l'épreuve pour pouvoir l'épouser. Donc c'est normal qu'elle s'obstine.
Ça c'est vrai, mais en même temps, le discours, parce que c'est de dire... Les femmes, et c'est tout le temps comme ça dans Corneille, les femmes ont absolument raison, y compris dans la logique, sauf qu'elles sont dans un monde d'hommes, et un monde dominé par un roi, et que donc, il faut qu'elles aient tort, puisqu'il va falloir décider à un moment quelconque. Bon, et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc dans ce monde d'hommes, Chimène a raison, elle restera avec ce dilemme, mais elle sera forcée à choisir, puisqu'il faut d'une certaine manière que la pièce avance et que la royauté triomphe. Alors, cette royauté-là, dans le Cid, elle n'est pas encore absolument souveraine, comme on le verra plus tard, d'abord dans Horace et surtout dans Cinna. Il y a comme une progression très intéressante entre justement le moment où le roi est encore faible et qu'il est encore face à quelqu'un qui le met en danger, et puis le moment où il pourra prendre véritablement son rôle de souverain dans Cinna, en sachant que le rôle de souverain pour Corneille restera toujours fragile.
Un grand merci à vous, Christian Biais, d'être venu nous parler du Cid aujourd'hui. C'était un plaisir de vous écouter, vous donner envie de le lire. Donc je renvoie l'édition que vous proposez au livre de poche, vous l'avez préfacé et commenté. Donc c'est un livre qui est disponible, ainsi que Moi, Pierre Corneille, que vous publiez en découverte Gallimard. Qu'est-ce que le théâtre, que vous avez écrit avec Christophe Trio. Tous ces livres seront en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, à 10h48, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Alors, comme tous les jours, vous venez nous parler d'un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est un livre tout noir, tout gris sur la table qui est à côté de vous.
Oui, assez énigmatique. Alors, une fois n'est pas coutume, Adèle, je vais aujourd'hui vous parler d'un roman, mais d'un roman écrit par une philosophe. C'est la philosophe Ayn Rand. Alors, très peu connue en France, très peu étudiée d'ailleurs comme philosophe, Ayn Rand a pourtant un parcours incroyable et une pensée bien à elle. Et surtout, ses romans sont parmi ceux qui se vendent le plus aux États-Unis. En témoigne d'ailleurs la quatrième de couverture de celui-ci, La Grève, qualifiée, je cite, de livre le plus influent aux États-Unis après la Bible. La Grève fait partie de ces romans qui sont des pavés, plus de 1300 pages quand même. Et ce qu'on y découvre, c'est l'histoire de deux industriels qui tentent de défendre héroïquement leur liberté d'entreprendre. Dans les années 50, en Amérique, alors en passe de devenir une démocratie populaire. On l'aura compris, rien qu'avec ce très court résumé, les romans d'Ayn Rand sont des fictions, mais ils exposent, comme elle le déclare elle-même, sa propre philosophie, une philosophie clairement libertarienne, mais pas seulement.
First, my philosophy is based on the concept that reality exists as an objective absolute, that man's mind, reason, is his means of perceiving it, and that man needs a rational morality.
Une morale rationnelle, objective. Ce serait une manière de définir la philosophie d'Ayn Rand, mais on pourrait y ajouter quel qu'on soit l'homme comme un héros, le bonheur comme seul but et l'accomplissement de soi comme seule activité. Autrement dit, on dirait la recette parfaite pour un roman. Mais voilà, au fil des pages, se découvre quand même plus qu'une recette et que l'exposé de valeur, qu'un roman à thèse ou qu'un best-seller, se découvre en fait une adéquation parfaite entre une pensée, un style et une histoire, et se découvre la réponse à cette question toute bête, comment des personnages réalisent et incarnent des valeurs réelles. Alors on ne peut ne pas être d'accord avec les valeurs libertariennes, égoïstes, objectives et froides d'Ayn Rand, mais on peut au moins saluer qu'elle a renversé le problème, non plus savoir comment appliquer des valeurs dans sa vie, mais comment faire de sa vie la réalisation de ses valeurs, comment, comme elle le dit elle-même, vivre conformément à sa propre pensée.
Et oui, souvent les questions toutes bêtes, comme vous dites, sont les meilleures questions. Alors ce livre s'appelle La Grève.
Ce roman s'appelle La Grève, c'est publié aux éditions des Belles Lettres et c'est traduit par Sophie Bastide-Fols.
Merci beaucoup Géraldine et merci à tous les Chemin touche à leur fin, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur le cœur. Demain nous parlerons de François Villon, le débat du cœur et du corps, c'est Jacqueline Cerchiglini-Toulet qui viendra nous en parler. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, réalisée cette semaine par Milena Elig, à la prise de son aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani, Géraldine Besnes-Savoie bien sûr, Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Livia Garrigue. Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour, attendant vos remarques et commentaires. Et puis bien sûr, pour ceux qui auraient raté cette émission, qui l'auraient prise en cours de route, sachez que vous pouvez la réécouter à volonté en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.